des bois. La neige, un poème, fondait sous nos pas.
Le sentier de neige, une chanson de Safia Nolin.
Oui, mais c'est pas une chanson de Safia Nolin.
Mais c'est elle qui chantait.
Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on a entendu la semaine dernière Claude Pelgag, mais c'est le grand succès des Classels, qu'on écoutera peut-être avant de partir pour les vacances, mais je ne sais pas si on va avoir le temps parce qu'il nous reste 2 jours. Enfin, on verra bien. Et c'était pour faire le lien avec votre chronique, chère Anne-Marie Aubin. Vous parlez aujourd'hui non pas de le sentier de neige, mais de les sentiers de neige.
Ben oui, c'est sûr qu'en voyant le titre, on chantonne la chanson, c'est comme...
On y pense.
Involontaire, là, effectivement, mais au pluriel. Alors, ça fait la différence, peut-être, là. C'est le dernier titre de Kev Lambert, paru chez Oliotrope, je crois, cet automne. Un roman de 412 pages que je propose parce que l'action de ce roman se déroule entre le 23 décembre et le 1er janvier. Les premiers jours de janvier, disons. C'est comme les vacances d'un enfant quand il quitte l'école jusqu'à temps qu'il retourne à l'école et ça se passe dans le monde de l'enfance. Donc, puisqu'on est dans le temps des fêtes, je trouvais que c'était une lecture tout à fait de saison.
Bien oui, ça comme ça. On est d'accord.
Et j'étais en retard parce que Kev Lambert, il a quand même gagné des prix, il a publié beaucoup de livres. Alors là, je me suis dit, bon, ça y est, je m'y penche.
Vous sentiez la pression?
Non, mais ça fait... C'est que j'ai une pile ici.
Oui,
là,
oui. Ben,
veux pas. Et là, la page couverture m'a séduit d'abord. Il y a quelque chose de très attirant. On voit un enfant en habit de neige dans un fond bleu puis des flocons. Ça se passe la nuit. C'est vraiment très beau. Ça fait vraiment temps des fêtes.
L'enfant marche. Il est de dos dans la neige.
On voit qu'il s'en va vers quelque chose mais ou qu'il revient de quelque part. Et puis, ben, Kev Lambert, on a beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps. C'est un très jeune auteur qui a 32 ans, mais qui a déjà 4 romans à son actif et pas les moindres. C'est quelqu'un qui a étudié en littérature, en création littéraire à l'Université de Montréal. Et puis, il a été en doctorat en création avec Catherine Mavrikakis. Et ça se sent dans son écriture.
Il s'est fait appeler Kev Lambert. On l'a connu sous le nom de Kevin Lambert.
Oui, au départ, et qui avait fait « Tu aimeras ce que tu as tué », qui a été finaliste au prix Médicis, et puis qui a gagné le prix de la découverte du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Querelle de Robert Val, qui a été finaliste au prix des collégiens en 2019. Ben lui, toujours chez Héliotrope, s'est mérité le prix Sade. Il a aussi été finaliste au Grand Prix du livre de Montréal et finaliste... prix des collégiens. Oui, c'est ça. Et puis que notre joie demeure, c'est le dernier, le prix Médicis, qui a finalement été finaliste au Goncourt dans la liste préliminaire. Et puis c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en France. Et puis maintenant, ben, il est une vedette là-bas, comme ici. Et c'est quelqu'un qui a un grand talent, c'est indéniable, et qui traite dans ce livre-là, semble-t-il, dans un style très différent de ce qu'il a fait dans les autres livres que je n'ai pas encore lus. De quoi il est question? Bon, des vacances de Noël d'un enfant, de sa famille, de la vie à l'école le dernier jour, le 23 décembre, et de l'exclusion de cet enfant-là dans son univers, dans sa famille, dans son cercle d'amis, dans sa classe, du temps des fêtes, de l'hiver, et surtout des jeux vidéo qui meublent l'imaginaire de cet enfant-là qui s'ennuie un petit peu dans la vie réelle et monotone à laquelle il est confronté. Et ce qu'il vit particulièrement cette année-là, c'est que ses parents se sont séparés. Et pour la première fois, ben, son temps des fêtes va être partagé entre sa mère et son père. Il faut dire qu'il a 8 ans. Et puis, ses parents ont la garde partagée, ce qui fait que, bien contre son gré, sa maman Lina le laisse partir avec son papa Karl pour Noël. Et elle va le retrouver pour le jour de l'an. C'est la situation de bien des enfants. Mais lui, il va vivre dans ces deux familles en alternance une certaine solitude jusqu'à ce qu'il rencontre sa fameuse cousine, Amy Anne, qui, elle, est une petite fille adoptée qui vit à Québec avec ses parents. Elle a 9 ans, donc elle a un an de plus que lui, mais surtout, elle a peur de rien. Et ensemble, et ils se retrouvent et on sent qu'il y a une complicité entre ces deux enfants-là qui, au fond, souffrent beaucoup de la monotonie des jours, mais qui, ensemble, vivent un monde imaginaire à travers tout ce qu'ils lisent, les jeux vidéo, leur univers merveilleux, finalement. Et ensemble, malgré tout ce qui se passe, ben, ils vont vivre le plus beau temps des fêtes de leur vie, quelque chose d'inoubliable, une aventure extraordinaire. Alors, le roman, il est quand même important, il y a 411 pages, et il est divisé en 5 grandes parties qui sont le temps des fêtes. Le premier, c'est l'avant, A-V-E-N-T. Là, on est le 23 décembre à l'école et on voit l'injustice qui se passe là, la violence, la cruauté entre les enfants et la difficulté du petit garçon Zoé. La veille, c'est le 24 décembre, là, ça se passe avec son père et la famille de son père, les La Montagne, qui vivent au lac Saint-Jean. Et là, c'est la fête à la manière du lac Saint-Jean. Et ce qui est très agréable dans ce chapitre-là, c'est que le texte est écrit comme les gens parlent oralement au lac Saint-Jean, chacun avec son accent et des sons qu'on ne prononce pas. Par exemple, il y en a un qui, au lieu de dire jambon, ben, le J, c'est un H. Alors, il va dire le jambon. C'est très drôle à lire tout ça.
Mangeur du bon jambon.
Oui, c'est ça. C'est un portrait social et régional aussi. Et puis, eux qui s'ennuient terriblement, ensemble, c'est là, dans cette nuit-là, qu'ils vont accéder au monde merveilleux. Et puis après, ben, le 25 décembre, il doit aller en retourner chez sa mère. Donc là, c'est la monotonie, mais là, il est dans une déprime totale parce qu'il n'y a plus sa cousine, puis il n'y a plus ce monde merveilleux, puis il est seul avec sa mère, il s'ennuie terriblement, à un tel point qu'elle va lui permettre d'aller à Québec chez sa cousine, où il va vivre là, l'aventure et la passion. Bon, ensuite, c'est le jour de l'an. Là, il est avec, c'est une autre séparation, il est avec sa mère. Et en janvier, il retourne à l'école. Donc, ça se passe assez rapidement dans le temps. Il y a quelques petits retours dans le passé, mais on est assez fidèle au temps qui passe. Et c'est un livre qu'on dévore. Moi, personnellement...
Ah oui?
Ah oui, je suis tombée dedans parce que, d'abord, l'univers de l'enfance, c'est quelque chose qui me fascine. J'aime beaucoup les livres pour la jeunesse. Et il y a là-dedans beaucoup, beaucoup de références à la littérature jeunesse, aux classiques pour la jeunesse. Bien sûr aussi aux jeux vidéo, au cinéma, au merveilleux, au fantastique. On sent que Kev Lambert est un grand lecteur, que c'est pas d'hier qu'il a commencé à lire. Et puis sinon, bien, c'est très bien documenté parce qu'on reconnaît des scènes justement qui font référence. Exemple, Alice au Pays des Merveilles, Stephen King, Le Seigneur des Anneaux, Jacques Ferron, Jean Ducharme. Je peux pas tous les nommer.
C'est un amoureux de Marie-Claire Blais aussi.
Oui, mais ça, dans ce livre-là, ça se sent moins non. que dans, paraît-il, le dernier, c'est ça.
Et on le, dernier...
le dernier? Ben, celui qui a publié avant, qui s'appelle Que notre
joie OK, l'avant-dernier. Demain. Oui, oui, oui.
Oui, c'est ça, oui. Et puis, on me dit que dans... Je ne l'ai pas lu, le monde me dit que dans celui-là, il n'y avait presque pas de ponctuation.
Non, c'est ça.
Alors que dans celui-là, c'est pas ça du tout. Là, ça pourrait être un gros roman jeunesse. Là.
Moi, le rythme est différent.
Oui, il a été cherché là, sans le savoir, hein, tout un nouveau lectorat. Moi, je le ferais lire dans ma classe au cégep. Les enfants là, qui sont non-lecteurs tomberaient dedans.
Oui, parce que 412 pages, c'est pas décourageant pour les jeunes.
Non, parce que justement, il y a des références à des jeux vidéo et on est comme dans un jeu vidéo. Il y a les monstres qui apparaissent, il y a Zelda qui est toujours présente là-dedans. Et le niveau de langue, l'oralité, c'est très varié. Le narrateur s'implique dans l'histoire, il nous donne des références, il nous parle au-dessus. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer l'originalité de la narration dans ce livre-là. Je vais retrouver ma page ici. Alors, elle est à la fête de Noël, c'est le 24 décembre, puis elle s'ennuie terriblement, mais elle a apporté des livres, et puis elle est en train de lire tranquillement, et puis là, ben, ses petites cousines viennent la déranger, elle aime pas ça. Alors, le narrateur nous dit, ah oui, elle est en train de lire son Ewilan, E-W-I-L-A-N, c'est une série de livres qui met en vedette une héroïne qui lui plaît, et le narrateur nous dit à nous, tu connais pas Ewilan? C'est le meilleur livre au monde. Son pouvoir à elle, c'est de fermer les yeux et de dessiner quelque chose, n'importe quoi. Quand elle les rouvre, la chose imaginée apparaît dans la vraie vie. Comme tous les héros des livres d'Emmy, Ewilan s'ennuie, sent qu'elle n'a pas sa place chez elle. Les enfants des romans qui champignonnent dans la mousse épaisse de sa bibliothèque ont perdu leurs parents à la guerre, dans un incendie, sont adoptés par des oncles qui les martyrisent. Chacun des romans est un portail vers un autre univers. Leurs histoires font la promesse qu'ailleurs, il existe un lieu où les lois sont différentes, où la magie règne, où les enfants comme Amy trouvent une place. Alors, ça dit tout en même temps que ces enfants-là cherchent leur place. Ils sont plus des petits bébés qui font tout ce que leurs parents leur demandent. Ils sentent qu'ils sont pas encore des adultes parce que les adultes qu'ils voient les inspirent pas vraiment. Mais ils sont dans l'entre-deux. Cette période où on peut plus quitter l'enfance, mais en même temps, on veut être autonome. Alors, c'est très, très bien raconté. Dans cet exemple-là, il parle au lecteur au-dessus. Et puis aussi, ben, il y a des petits clins d'œil sur la région. Par exemple, elle, sa cousine qui vient de Québec, il va dire à un moment donné, bon, là où toutes les nouvelles affaires arrivent plus vite qu'au Saguenay. Bon, ben, c'est une époque aussi, c'est une région. Et le narrateur s'investit dans la narration. Il contribue à donner des indices au lecteur. Et les personnages sont bien sûr très attachants. Ce petit garçon, il ressemble à plein de garçons qu'on connaît. Il a aussi des questionnements sur son identité de genre. Plusieurs vont reconnaître des référents culturels dans les vêtements. Moi, j'ai fait beaucoup de Google pour trouver qu'est-ce que c'était ça. Les jouets, la nourriture, les jeux vidéo, bien sûr. Et puis, dans toute cette histoire-là, il y a une profondeur derrière tout ça. Il y a deux mondes qui s'opposent, celui de l'enfance, celui des adultes. Le monde réel qui, selon la jeune fille, dit qu'il est bien plate, et le monde des jeunes, de l'aventure, le monde de leurs jeux vidéo, ce monde parallèle, ce monde merveilleux auquel ils vont accéder via une cassette de jeu Zelda. Fait que tout est autour de cette cassette et tout cet univers de jeux vidéo où on comprend, moi j'ai pas du tout adhéré à ça parce que j'étais pas enfant à l'époque des jeux vidéo, mais je comprends maintenant pourquoi des jeunes peuvent très bien tomber complètement accro à ces jeux-là qui offrent du pouvoir, de l'imaginaire, de l'aventure, de la passion, la peur. Il y a des gens gentils et des gens méchants. Donc, c'est comme une micro-société où ils ont du pouvoir. Bref, moi qui ne connais rien aux jeux vidéo, c'est sûr que j'ai été voir c'était qui Zelda et tout ça. Je me suis régalée à lire ce livre-là parce que je me suis retrouvée dans mon enfance, dans les Noëls de mon enfance, les rencontres familiales où effectivement, tu as toujours un petit cousin, une petite cousine que tu préfères et que tu as hâte de voir. Et puis que, bon, le reste t'intéresse pas. L'idée, c'est de jouer aussi. Le temps qu'on a pour jouer, on quitte l'école et jouer dehors, dans la neige. Alors, justement, la seule façon de décrocher des enfants des écrans, c'est qu'ils vont aller dehors et ils sont convaincus qu'ils vont retrouver le personnage de la cassette vidéo. Mais je veux pas trop en dire non plus.
Non.
En creusant dans la neige, ils vont tomber dans ce monde. Et là, c'est toute la référence à Alice au Pays des Merveilles, au monde parallèle, finalement. Et ça, c'est la peur, c'est affronter sa peur, c'est faire confiance à l'autre. Bref, je pourrais pas résumer tout ce qui se passe en 411 pages comme ça, mais je dirais que c'est un livre à s'offrir qui est simplement passionnant et qui nous réconcilie avec peut-être la grisaille là, qu'on a présentement, on n'a pas de neige, mais dans le livre, il y en a beaucoup. Et c'est 2004, donc il y a des références aussi dans le temps.
Mais...
Et c'est simplement savoureux et passionnant.
Savoureux et passionnant. Les sentiments de neige. Les sentiments de neige.
Les sentiers.
Ça aurait pu être un beau titre, mais c'est Les sentiers de neige par Kev Lambert aux éditions Héliotrope. Vous nous avez donné, encore une fois, l'envie de lire ce livre. Mais vous étiez particulièrement enthousiaste et passionné aujourd'hui. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, Anne-Marie. On va se retrouver en janvier.
À vous aussi et à toute l'équipe.
Parfait.
Merci beaucoup.
Comme dans la chanson de Beaudommage, on va se retrouver le 7 janvier.
Et comme dans le livre aussi.
Ah oui, OK. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt, oui. C'est relatif.